Bien, comme l'a dit Fabienne Casoli, l'exobiologie, effectivement, même si le nom n'indique pas exactement ce qui est à l'intérieur, exobiologie, la vie en dehors de la Terre, la signification de cette appellation a bien évolué depuis son introduction il y a maintenant une quarantaine d'années. C'est de façon générale l'étude de la vie dans l'univers, et plus précisément de ses origines, de son évolution et de sa distribution, mais aussi des processus et des structures, en particulier biologiques, qui sont liées à la vie. Alors, comme l'a dit Fabienne, il y a des, je dirais pas des contrefaçons, mais des synonymes. Astrobiologie, qui a été introduite une dizaine d'années par les Américains, bioastronomie, qui est un peu plus ancienne, et il y en a même une autre qui n'est pas très utilisée, cosmobiologie. Bon, toutes ces appellations, en fait, reviennent à peu près à la même chose. En France, on a préféré, pour des raisons historiques, le terme exobiologie, on tend maintenant vers exoastrobiologie. Donc, c'est un domaine qui est né du développement de l'exploration spatiale, qui est lié, comme l'a dit Fabienne Casoli, à de très nombreuses disciplines, allant de l'astronomie jusqu'aux sciences de l'univers, et aussi, effectivement, aux sciences de l'homme et de la société, et qui est étroitement lié au développement des technologies spatiales en particulier. Alors, c'est un domaine qui inclut de nombreuses approches, telles que, bien évidemment, c'est la plus évidente, la recherche de vie aux signatures biologiques présentes ou passées, dans le système solaire ailleurs que sur Terre, et même hors du système solaire. C'est un domaine qui inclut aussi une approche qui n'a pas été toujours très bien ressentie dans la communauté scientifique, particulièrement en Europe. C'est ce qu'on appelle l'approche SETI, ce qui veut dire Search for Extraterrestrial Intelligence, donc la recherche de signaux d'intelligence extraterrestre. Parmi les approches, il y en a une qui est beaucoup plus indirecte, mais qui a été sans doute une des plus performantes jusqu'à présent, c'est l'étude de la chimie organique dans les environnements autres que la Terre, la chimie extraterrestre. Et puis, l'étude de l'origine ou des origines et de l'évolution de la vie sur Terre fait aussi partie des approches de ce grand domaine. Et il faut bien l'avouer, c'est aussi une approche tout à fait essentielle, dans la mesure où, pour l'instant, avouons-le, la vie terrestre est le seul exemple dont nous soyons certains de vie dans l'univers. Donc autant l'étudier de près. En pratique, bien, ce grand domaine, il est approché par les méthodes habituelles. L'observation d'environnements planétaires en particulier, par des méthodes in situ, par des méthodes de télédétection. Les expériences, simulations en laboratoire, expériences plus spécifiques, et les modèles théoriques, en particulier, par exemple, des modèles photochimiques, thermodynamiques, microphysiques d'environnement. Et c'est l'intégration des données qui sont fournies par ces différentes approches qui permettent de mieux comprendre les processus et de les maîtriser. Alors, je ne vais pas vous faire un historique, j'ai plutôt choisi de vous montrer quelles sont aujourd'hui les grandes directions en Europe et principalement en France dans ce domaine. Donc, seul retour un petit peu historique, c'est pour vous rappeler que les recherches dans ce domaine sont effectivement assez récentes. Je citerai par exemple l'étude des météorites et la recherche dans les météorites de micro-organismes. Les premières recherches, elles datent des années 1850, en 1860, quand on a commencé à réaliser que les météorites étaient effectivement des objets venant d'ailleurs. Et Pasteur a été un de ceux à faire ces recherches de micro-organismes qui n'ont pas abouti, sinon je pense que ça aurait été un scoop. Je citerai aussi Pasteur pour une autre raison. C'est lui qui, avec ses expériences sur la génération spontanée, a montré que c'était un leurre et que l'explication de l'origine de la vie sur Terre nécessitait une autre théorie, qui, quelques décennies plus tard, a été publiée par Oparin. Bien, donc en France, en France, dans un passé beaucoup plus récent. C'est une thématique dans laquelle les chercheurs travaillaient de façon très isolée, principalement sur les aspects plutôt origine de la vie, chimie prébiotique, à partir des années 1960 à 70. Les équipes travaillant dans le domaine se sont multipliées dans les décennies qui ont suivi, et cette thématique a été reconnue par les structures officielles, par le CNES et par le CNRS dans les années 80, je dirais. Le CNES a effectivement, dans ses appels d'offres annuels, inclus la thématique exobiologie à partir des années 1980. Suite à un colloque organisé, vous voyez que c'est quand même assez récent, il y a moins de 10 ans, un colloque national d'exobiologie, le CNRS a décidé de créer une structure officielle, un GDR, comme Fabienne l'a mentionné, qui coordonne, anime ses activités en France depuis cette époque et qui est soutenue effectivement principalement plutôt par le département SDU, je dirais MIPU, aujourd'hui ex-SDU, MIPU, un petit peu de temps en temps par les départements de chimie et des sciences de la vie et pas suffisamment à mon avis. Alors, actuellement, ces activités sont toujours soutenues donc, par le CNES et le CNRS. Ça se traduit par de nombreux ateliers, par une école thématique organisée tous les 2 ans, par un colloque organisé tous les 4 ans, et le prochain a lieu dans quelques semaines seulement à Orléans. Et puis, plus récemment, un groupe thématique officiel au CNES d'exo-astrobiologie, donc depuis moins de 2 ans maintenant. Alors, c'est ça que je voudrais vous montrer, les thématiques, ou plutôt les directions dans lesquelles nous avons décidé en France, et ça correspond aussi à des priorités au niveau international, de nous diriger, avec pour fil conducteur la rencontre de l'eau et de la matière carbonée, et la recherche d'une deuxième genèse en prenant la vie terrestre comme référence. Alors, cette problématique, elle s'appuie en fait sur 3 grands volets. L'étude des ingrédients de la vie primitive qui ont conduit à l'apparition de la vie primitive, ce qui nécessite de connaître le contexte géologique et planétaire, ce qui nécessite aussi de mieux comprendre l'origine des molécules organiques dans l'environnement primitif terrestre. À partir de ces ingrédients, comment est apparu les premiers systèmes autoréplicatifs? Comment est apparue la vie? Quels ont été les principaux processus qu'on appelle aujourd'hui la chimie prébiotique et qui a conduit à l'émergence du vivant? Et puis, le troisième volet, qui est le plus évident dans ce domaine, même si ce n'est pas le plus facile, c'est la recherche d'une vie ailleurs, ce qui nécessite de mieux cerner ce qu'on appelle les biosignatures, et ensuite l'application de cette connaissance des biosignatures à la recherche d'une vie au-delà de la Terre, dans le système solaire et même au-delà du système solaire. Alors, les ingrédients de la vie primitive, donc le contexte géologique et planétaire, ce n'est pas évident de comprendre quel était l'environnement de la Terre au moment où les processus qui ont conduit à la vie se développaient. La plupart ont été effacés en 4 milliards d'années, disons à peu près. Donc, il faut rechercher des traces. Il faut essayer de comprendre d'abord comment la Terre s'est formée, quelle était la nature de l'atmosphère primitive. On sait qu'elle ne contenait pas d'oxygène, mais est-ce qu'elle était effectivement riche en gaz carbonique, ce qui est le modèle actuel? Est-ce qu'elle contenait malgré tout une fraction notable de méthane? C'est une question qui a son importance dans notre domaine. Quel était l'état géologique, la croûte, la tectonique, le volcanisme, le magnétisme, tous ces aspects qui interviennent dans les processus de chimie prébiotique. L'hydrosphère, qui a été sans doute une des niches importantes de cette chimie, quel était son état, son pH, ses dimensions, sa nature. Alors, les directions pour cela, eh bien, c'est d'essayer d'établir de nouvelles contraintes sur la composition de l'atmosphère primitive à partir d'observations actuelles, à partir de comparaisons avec les autres planètes telluriques, plus particulièrement des études sur les isotopes, en particulier de l'oxygène sur les matériaux terrestres, ce qui donne des indications, par exemple, sur la présence d'eau liquide à une époque relativement proche de la formation de la Terre. C'est assez nouveau. Étude, comme je disais, des conditions générales, volume, température, pH, concentration de sel dans les océans primitifs et l'évolution en fonction du temps. Existence, quand les continents sont émergés, sont-ils apparus sur cette Terre primitive. Alors, un des résultats, mais qui est encore en cours, c'est un travail tout à fait fédératif mené en Europe, principalement en France, avec une coordination de plusieurs chercheurs français, établir une frise assez précise de ces différents événements qui ont conduit de la formation de la planète Terre jusqu'à l'apparition des premiers systèmes vivants avec les différentes étapes intervenant. Alors, une autre façon aussi, toujours dans ce premier volet, d'essayer d'approcher le problème, c'est d'aller voir ailleurs, dans des environnements qui ont quelques analogies avec ce qu'a pu être la Terre primitive. Et un des exemples, c'est l'étude de Titan, le plus grand satellite de Saturne, dont la chimie organique qui s'y déroule actuellement a quelques analogies, effectivement, avec ce qui s'est passé sur la Terre il y a 4 milliards d'années. Il y a une communauté importante qui travaille sur les titans en relation avec ces problèmes. Et elle est d'autant plus importante qu'il y a une mission qui est allée explorer le système de Saturne et qui est en cours d'exploration actuellement et qui nous rapporte plein d'informations tout à fait extraordinaires qui s'appelle Cassini-Huygens. Je voudrais là passer quelques minutes pour vous donner quelques aspects. Comment on voit aujourd'hui Titan d'un point de vue astrobiologique à partir des données, des dernières données dont nous disposons, entre autres grâce à Cassini-Huygens. Il y a effectivement trois aspects exobiologiques de ce corps particulier, ce grand satellite de Saturne, qui a la particularité, c'est le seul satellite de ce type-là dans le système solaire, à posséder une atmosphère dense. Justement, cette atmosphère, c'est déjà une première analogie avec la Terre, dans la mesure où elle est majoritairement composée d'azote. Elle a une structure analogue à la structure de l'atmosphère terrestre, avec une troposphère, une stratosphère, comme sur Terre. Elle est faite de composés qui ne sont pas les mêmes. J'ai dit que le constituant principal de l'atmosphère du Titan, c'est l'azote. Mais le composé secondaire, c'est le méthane, qui est présent à quelques pourcents. Mais malgré tout, les propriétés ou le comportement du méthane dans cette atmosphère est tout à fait analogue au comportement de l'eau dans l'atmosphère terrestre. Effectivement, le méthane donne un effet de serre sur Titan, comme l'eau sur Terre. Le méthane peut condenser, peut donner des précipitations, on ne les a pas encore détectées, même si on en a quelques indices, des surfaces liquides à la surface, des corps liquides à la surface. Une autre analogie, c'est la présence sur Terre et sur Titan de gaz à effet de serre non condensable dans les conditions de la planète, le gaz carbonique sur Terre, et l'analogue sur Titan serait l'hydrogène qui, aussi paradoxal que ça puisse sembler, donne aussi un léger effet de serre, mais dans les conditions de température de Titan. Et puis, il y a des éléments à anti-effet de serre dans l'atmosphère de Titan, comme sur Terre, des aérosols, des nuages, qui sont tout à fait analogues. Une autre analogie encore, c'est la découverte dans l'atmosphère de Titan de l'argon. C'est le plus abondant des gaz rares, le seul qu'on ait détecté jusqu'à présent. Et le plus abondant des isotopes de l'argon sur Titan, c'est l'argon 40. Bon, comme vous le savez sans doute, l'atmosphère terrestre est composée d'environ 1% d'argon 40 aussi, des isotopes 40 de l'argon, dont l'origine est la désintégration radioactive du potassium 40. Eh bien, il est clair que sur Titan, l'origine de l'argon 40 atmosphérique doit être la même. La désintégration radioactive du potassium 40 dans la structure profonde de ce satellite, ce qui indique qu'il y a un dégazage de la structure profonde avec une alimentation de l'atmosphère processus qui sont sans doute tout à fait analogues à ce qui s'est passé sur Terre au moment où l'atmosphère terrestre s'est formée par dégazage. Et puis, une autre analogie, elle est frappante ici. Ça, c'est Titan, tel que l'a vu Huygens avant de se poser à la surface du satellite. Et là, vous avez une photographie d'une zone désertique terrestre du Yémen, du désert du Yémen, où on voit des structures dendritiques, des anciens lits de fleuves asséchés, tout à fait analogues à ce que l'on voit sur Titan. Donc, voilà une première analogie. Donc, une planète ou quasi-planète géologiquement active comme la Terre. La deuxième analogie, c'est la présence sur Titan d'une chimie organique active. On a déjà détecté dans l'atmosphère de nombreux composés organiques. En vert sont des composés dont la chimie est importante pour ce qu'on appelle la chimie prébiotique. Par exemple, l'acide cyanhydrique peut, dans l'eau, conduire à de nombreux composés d'intérêt biologique. Mais, et ça c'est une des découvertes importantes de Cassini-Huygens, la chimie complexe dans l'atmosphère, elle est surtout présente en phase condensée. Huygens a pour la première fois pu analyser les aérosols de cette atmosphère, dont on ne connaissait rien en termes de chimie auparavant, directement, et a pu montrer que ces aérosols atmosphériques dans l'atmosphère de Titan sont faits d'un noyau organique réfractaire, très complexe. Alors, bon, ce n'est qu'un modèle. Vu ce que donne ce noyau par pyrolyse, il doit y avoir sans doute des groupements nitriles, des groupements amines qui vont produire les produits de pyrolyse qu'on a identifiés avec Huygens, qui sont l'acide cyanhydrique et l'ammoniac. Mais donc, un matériau qui, a priori, quand on met ce type de matériau dans l'eau, ça doit conduire à des composés d'intérêt biologique. Alors, est-ce qu'il y a de l'eau liquide sur Titan? C'est une question. Sur Titan, sans doute pas, ou du moins sûrement pas de façon permanente compte tenu des basses températures qui règnent. Je ne vous l'ai pas dit, mais la température de surface est 94 Kelvin, à peu près moins 180 degrés centigrades. À ces températures-là, difficile d'avoir de l'eau liquide en permanence. En revanche, les modèles de structure interne suggèrent fortement la présence d'un océan d'eau liquide avec un peu d'ammoniac. Donc il y aurait sur Titan, pour parler un peu brutalement, tout ce qu'il faut pour faire la vie. Les matériaux organiques sont présents, on les voit. L'eau liquide doit être présente d'après ces modèles. Quant à l'énergie qui est nécessaire, elle est aussi présente sans aucun doute. D'où la question, est-ce qu'il y a une vie sur Titan? Et je ne répondrai pas à cette question aujourd'hui, et je ne pense qu'on ne sera pas capable d'y répondre avant de nombreuses décennies, mais la question se pose, et cette présence ne peut pas être exclue. Donc, voilà pour ce qui est de l'environnement, et comment approcher ce qui se passait sur la Terre primitive il y a 4 milliards d'années. Alors maintenant, la question des ingrédients. Sur Terre, la matière organique pouvait venir de différentes sources. La source atmosphérique semble de moins en moins probable aujourd'hui. En revanche, une autre source, qui correspond donc à une origine endogène, serait les sources hydrothermales sous-marines, qui devaient être nombreuses après la formation de la Terre, et autour desquelles, au voisinage desquelles, il y avait tout ce qu'il faut pour qu'une chimie organique en présence d'eau liquide puisse se dérouler. Alors là, ça, c'est une direction qui est relativement récente. Elle concernait déjà une large communauté. Les microbiologistes s'intéressent et les géologues depuis longtemps aux sources hydrothermales, depuis leur découverte il y a une trentaine d'années. Mais maintenant, ce sont les chimistes et les chimistes du prébiotique qui s'y intéressent, dans la mesure où les conditions, effectivement, peuvent permettre des synthèses prébiotiques qui n'ont pas été beaucoup étudiées jusqu'à présent. D'autre part, l'étude de l'environnement des sources hydrothermales est aussi un moyen d'éventuellement étudier d'autres environnements extraterrestres comme Mars, Europe et même Titan dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, j'en dirai pas plus là, parce que le temps étant compté, je regarde la tierce personne qui, pour l'instant, ne dit rien de particulier. L'autre origine possible de la matière carbonée sur Terre, c'est une origine extraterrestre. Donc, une origine exogène. Et pour étudier cette origine, eh bien, on va étudier jusqu'à la chimie du milieu interstellaire qui a pu conduire à un certain nombre de matériaux organiques qui, après formation de la nébuleuse primitive solaire et des planètes, ont pu être en partie récupérés, c'est une hypothèse, et donc ont pu alimenter éventuellement la Terre. Une autre possibilité, c'est l'intervention des comètes et des ingrédients qui constituent le noyau cométaire et la coma, enfin surtout le noyau cométaire, les impacts cométaires ayant été sans doute nombreux pendant les premiers 500 millions d'années de l'histoire de notre planète. Or, le noyau cométaire, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, mais je vais y revenir. Et puis, une autre possibilité sont les météorites, qui contiennent, dont la classe des météorites carbonées contient, comme son nom l'indique, une fraction notable de matière carbonée et de matière organique. Et les bombardements météoritiques ont pu aussi contribuer à l'apport de matière organique sur Terre. Alors, sur les comètes, pour les comètes, on ne sait pas grand-chose actuellement de la composition du noyau, directement. Il y a une mission qui est en route, qui a été lancée il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle Rosetta, qui est en route vers une comète du nom de Churyumov-Gerasimenko. Ce sont des aventures de longue durée, comme vous le voyez. Lancée en 2004, elle va arriver à destination en 2014, 10 ans de voyage. Mais c'est surtout la phase finale qui peut être considérée comme dangereuse ou à risque, dans la mesure où on va pour la première fois poser un petit véhicule, un petit atterrisseur sur un noyau cométaire. Un noyau cométaire, c'est un tout petit objet, quelques kilomètres, maximum dizaines de kilomètres de dimension, donc une très faible gravité. Et donc, il faut arriver avec des grappins, avec des sortes d'encre, à plaquer, une fois qu'il arrivera à la surface, cet atterrisseur pour qu'il ne reparte pas. Ensuite, on va faire du forage, faible profondeur, mais suffisante pour collecter et analyser, avec les différents instruments d'analyse qui sont à bord, la matière organique. Et pour la première fois, on va faire l'analyse chirale. Je ne dirai pas ce que c'est. Si j'ai le temps après, je répondrai à vos questions là-dessus, de la matière organique éventuellement contenue dans le noyau de cette comète. Alors, on risque d'avoir des informations plus tôt, mais ça ne sera pas exactement du même type, grâce à la mission Stardust, qui a rapporté des échantillons de l'environnement proche d'une comète, et échantillons qui sont en cours d'analyse, y compris actuellement en France et à Orsay. Et puis, il y a les météorites. Alors, les météorites, considérées comme une source, sont très importante de matière organique, principalement les micrométéorites. Là aussi, sur le site d'Orsay, il y a une équipe qui est spécialisée dans ce domaine et qui a déjà étudié un très grand nombre d'échantillons météoritiques après les avoir collectés. C'est l'équipe de Michel Morette et de Cécile Engrand. Actuellement, la Terre reçoit 20 000 tonnes par an de ces microparticules. 20 000 tonnes par an, ça paraît déjà énorme. Pour toute la surface de la Terre, bien évidemment, heureusement. Heureusement pour nous. Enfin, ça tombe surtout dans les zones désertiques qui sont les plus abondantes sur Terre. Mais on imagine que sur la Terre primitive, il devait y avoir un flux 1 000 à 10 000 fois plus important pendant la période des 500 premiers millions d'années où les bombardements étaient très intenses. Si on tient compte de ce flux 1 000 à 10 000 fois plus intense, on arrive à une quantité de carbone délivrée sur Terre par ces micrométéorites pendant les premiers 500 millions d'années d'histoire de notre planète, un flux de carbone qui est plusieurs ordres de grandeur supérieur au carbone contenu dans toute la biomasse actuelle. Donc de là à penser que les micrométéorites ont alimenté la Terre, principalement ont été la principale source de carbone sur Terre, qui ensuite a été impliqué dans la chimie prébiotique, il n'y a qu'un pas qui est facile à franchir. Sachant qu'en plus, ces micrométéorites sont des particules extrêmement poreuses et que l'eau qui va s'infiltrer dans ces particules va pouvoir réagir facilement avec la matière carbonée qu'elle contient, un peu comme un micro-réacteur chimique. Donc, il y a beaucoup d'espoir sur une compréhension de cette chimie prébiotique grâce à l'étude de ces micrométéorites. Alors, il y a un autre aspect pour terminer dans ce premier volet, qui est d'étudier la résistance de la matière organique dans différentes conditions en la mettant en orbite terrestre et d'étudier aussi en particulier éventuellement les processus qui ont conduit à l'homochiralité de la matière biologique. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Eh bien, on utilise les opportunités de certaines missions spatiales pour mettre en orbite terrestre des échantillons de matériaux organiques et de voir comment ils se comportent sous l'irradiation ultraviolet intense, en particulier, et le rayonnement cosmique de l'espace interplanétaire. Alors, une des expériences dans lesquelles les équipes françaises sont très impliquées, c'est l'expérience BioPan, qui utilise une capsule russe Photon. C'est une expérience qui est coordonnée par l'Agence spatiale européenne. En fait, l'idée, c'est de mettre ce système, un genre de casserole avec un couvercle qui se referme. De chaque côté, il y a des échantillons. Une fois que c'est refermé, tout le système est accroché sur la capsule Photon, que vous voyez ici. Le système est laissé en orbite terrestre pendant plusieurs semaines, et ensuite, retour sur Terre. Une fois que c'est revenu sur Terre, c'est très réchauffé, bien sûr, par le réchauffement, par l'entrée, et on récupère ce qui est à l'intérieur. Bon, je n'ai pas le temps de vous décrire ça. Donc, voilà pour ce premier volet. Alors, le deuxième volet, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est l'étude de la chimie des origines de la vie, donc des étapes de la chimie prébiotique et de l'émergence du vivant. En fait, là, la principale piste, c'est de partir de l'idée que les premiers systèmes vivants devaient être constitués d'une cellule primitive permettant la compartimentalisation des molécules informatives et catalytiques. Alors, peut-être pas un système tout à fait analogue à ce que nous connaissons aujourd'hui. Une des idées qui est née surtout du fait que, quand on regarde le vivant actuel, la structure des nucléotides basés sur un sucre qui est ici sur l'utilisation du ribose ou du désoxyribose dans l'ADN ou dans l'ARN. Donc l'idée, c'est que ce sucre qui est relativement instable, thermiquement en particulier, qui est difficile à fabriquer dans les conditions prébiotiques, n'est apparu que tardivement dans l'évolution chimique. Il est malgré tout apparu, il a conduit à un monde qu'on appelle le monde ARN et qui aurait précédé le monde actuel dans lequel les molécules réplicatives sont principalement les molécules d'ADN. Alors pourquoi il est du monde ARN? Parce que le monde ARN peut finalement se passer de molécules catalytiques et avoir la double propriété de réplication et de catalyse. Mais ce monde ARN est difficile, on imagine difficilement son émergence ab initio, compte tenu de l'instabilité relative de cette structure. Donc il y a plusieurs pistes actuellement pour un monde pré-ARN. Une piste, c'est de baser un nucléotide sur un sucre qui est moins instable, ou de baser une structure sur non plus un sucre, mais un peptide. Donc voilà les pistes qui sont en cours d'étude actuellement. Une autre piste, c'est de penser que les premiers systèmes autoréplicatifs étaient une symbiose entre un monde minéral et un monde organique. On pourrait appeler ça le monde des thioesters, dont a parlé Christian De Duve, par exemple, un système autoréplicatif couplant pyrite et sulfure de fer un allongement de chaîne à partir de gaz carbonique et d'hydrogène. Ça, ce sont des modèles développés par le chimiste allemand Wächterhäuser. Donc, les directions actuelles dans ce domaine, c'est la recherche de systèmes autocatalytiques actifs sur des surfaces minérales dans l'eau, essayer de comprendre, pour comprendre l'homochiralité du vivant, comprendre les premières brisures de symétrie qui ont conduit à cette homochiralité, et puis comment s'est faite la sélection d'ARN d'exercer des actes catalytiques indispensables aux premières voies métaboliques. Alors, je ne peux pas non plus, avant d'abandonner ce deuxième volet, ne pas mentionner toutes les recherches qui sont effectuées dans les études phylogéniques. Il y a en particulier des équipes extrêmement actives à Orsay, comme le laboratoire de Patrick Forter, où on essaye de comprendre quelle a pu être la nature de ce progénote, de ce que l'on appelle encore aujourd'hui, pour masquer notre ignorance, LUCA, le dernier ancêtre universel commun à toute la vie terrestre actuelle. Donc, quelle était la nature de ce LUCA qui est apparu juste après ce monde ARN que j'ai mentionné il y a quelques minutes. Bon, le troisième volet, donc, concerne la recherche d'une vie extraterrestre. Alors, pour rechercher une vie extraterrestre, comment faire ? Il faut avoir une connaissance relativement approfondie des signatures du vivant, des caractéristiques spectrales et des biosignatures en général. Alors, dans ce domaine des biosignatures, il y a plusieurs types de biosignatures. Il y a des biosignatures qu'on pourrait appeler structurales. Vous en avez un exemple ici, où on peut voir, d'après la morphologie de micro-échantillons, ça sont des bactéries récentes, ça c'est un échantillon fossile, pardon, un échantillon très ancien, qui a 3,5 milliards d'années, et d'après la nature des microstructures que l'on voit, ça ressemble fortement à une bactérie fossile. Si on regarde ce même micro-échantillon au microscope à balayage, par exemple, eh bien, on va voir la trace du carbone pour cette microstructure-là, ce qui indique clairement que c'est une microstructure organique. Bon, ce qui semble conforter l'idée que ça pourrait être une microstructure biologique. Il y a aussi des biosignatures chimiques, il y a des biomarqueurs. Par exemple, toute la chimie des opanes sont des molécules qui ont une structure générale de ce type-là. La présence d'opanes est très souvent une indication forte d'une activité biologique passée. Et puis, il y a les biomarqueurs isotopiques, par exemple le carbone. Dans les processus biologiques, qui sont très nombreux, les étapes sont extrêmement nombreuses, chaque étape va faire intervenir un catalyseur spécifique, et l'assimilation du carbone, disons que les réactions organiques, les réactions biologiques, vont se faire un tout petit peu plus vite sur les molécules qui contiennent du carbone 12 que sur les molécules contenant du carbone 13, simplement parce que la molécule étant un petit peu plus lourde, même s'il a strictement les mêmes propriétés, eh bien, la constante de vitesse va être juste un tout petit peu plus grande, infiniment, avec une différence presque infime. Mais multipliée par un très grand nombre de réactions, par un très grand nombre de cycles, cette différence très infime peut finir par se traduire par une différence notable. Et effectivement, eh bien, on note qu'il y a un enrichissement isotopique en carbone 12 par rapport au carbone 13, dû à ces processus. Donc, mesurer un rapport isotopique du carbone peut donner une indication sur une éventuelle activité biologique passée en particulier. Alors, essayons d'appliquer ça, et j'ai 5 minutes pour le faire, à la recherche d'une vie au-delà de la Terre, pour commencer dans le système solaire. Alors, un des objets privilégiés des exobiologistes ou des exoastrobiologistes, c'est Mars. Pour différentes raisons, Mars a clairement eu l'eau liquide dans son passé. Mars a dû avoir des importations météoritiques comme sur Terre et de la matière organique. Donc tout ce qu'il faut pour y faire la vie. Alors, une façon de rechercher la vie sur Mars, c'est d'attendre que les échantillons martiens arrivent sur Terre et de les analyser. Alors là, il faut quand même se méfier. On a eu droit à de fausses alertes il y a une dizaine d'années avec la découverte, soi-disant, de bactéries martiennes dans la météorite LH84001. Je n'ai pas le temps de discuter de ça, mais ça montre quand même qu'une découverte, l'annonce de la découverte d'une vie extraterrestre, de la découverte d'une vie martienne dans une météorite, nécessite quand même d'avoir des preuves irréfutables, ce qui n'était pas le cas. Alors il y a aussi des preuves qui, celles-là, sont peut-être plus critiquables et que je ne développerai pas. Donc, Mars, un objet privilégié, est la première priorité de beaucoup d'exobiologistes, mais qui nécessite aussi des problèmes de développer des questions de protection planétaire. Oui, je vais le faire. Merci. L'eau ne vient pas de Mars. D'ailleurs, on n'a pas encore trouvé l'eau liquide sur Mars. Mais on ne désespère pas, et il est clair qu'il y a eu de l'eau liquide dans son passé. Comme vous le savez, il y a eu énormément de missions spatiales qui ont exploré Mars, à partir d'orbiteurs, à partir de landers. Elles n'ont pas toutes fonctionné, mais beaucoup ont donné des résultats tout à fait intéressants. Et bon, de toute façon, je n'ai pas le temps de passer dans les détails de ça, mais je ne peux pas ne pas parler des derniers résultats donnés par Mars Express, avec l'implication très forte d'un laboratoire dont la directrice est ici présente, qui a réussi à obtenir, grâce à un instrument développé à l'IAS, qui s'appelle Omega, à prendre les premières données couplées. En fait, l'idée, c'est d'arriver à coupler les spectres infrarouges pris par Omega avec les images à haute résolution prises par une caméra allemande. Et quand on couple les deux, eh bien, on voit clairement la présence, d'après les spectres infrarouges, d'argile dans certains endroits qui ne sont pas ceux d'ailleurs auxquels on pensait initialement. Initialement, on pensait que c'était plutôt au fond des canyons, et là, il semblerait que ce soit plutôt sur les rives supérieures. L'exploration de Mars est loin d'être finie. Il y a une mission qui va être lancée en 2009, qui est une mission américaine avec une forte participation française, qui s'appelle MS Elonai. Et puis, il y a une mission européenne qui donne lieu à beaucoup de débats sur lesquels je passerai rapidement et répondrai à vos questions, éventuellement, si vous le souhaitez. Je suis allé trop vite, je sais, vous m'en voulez. Cette mission européenne, non, c'est pas ça, excusez-moi. Cette mission européenne s'appelle ExoMars. Elle doit être lancée en 2011. L'autre objet d'intérêt des exobiologistes, c'est Europe. Europe, c'est un des satellites galiléens de Jupiter, donc un gros satellite découvert par Galilée, comme son nom l'indique, dans les années 1600. Europe intéresse les exobiologistes parce que les modèles internes de ce satellite suggèrent la présence d'un océan interne qui serait relativement proche de la surface, quelques kilomètres seulement. 10 kilomètres si on n'a pas de chance, 1 kilomètre si les modèles sont optimistes. Alors, ce sont des modèles. Ce sont des modèles de structure interne, mais l'observation de la surface d'Europe, en particulier par les sondes telles que Galileo, qui ont pris des images proche distance il y a quelques années, semble conforter ce modèle de présence d'océan interne par la structure de surface. Donc, comment détecter la vie sur Europe? Alors, il y a eu quelques missions qui ressemblent un peu à de la science-fiction, ou plutôt des projets, excusez-moi, des projets de mission. L'idée est très simple, on envoie un vaisseau qui lance un système pénétrateur, que l'on voit ici, qui arrive à traverser les quelques kilomètres de glace et à libérer, une fois qu'il a atteint l'océan, un petit bathyscaphe qui, comme par hasard, quelle chance, se trouve juste en face d'une source hydrothermale. Bon, alors, il est clair que pour arriver à ça, il faut traverser une épaisse ou fine, enfin c'est quelques kilomètres, croûte de glace. Il faut pénétrer dans un océan qui pour l'instant n'est qu'un modèle, il est hypothétique. Il faut chercher d'éventuelles sources hydrothermales, parce que s'il y a la vie, elle serait plutôt là. Et puis d'éventuels hypothétiques micro, certains même pensent macro-organismes. Bon, je pense que de toute façon, nous n'avons pas la technologie actuellement. Et quand nous essayons de faire ça sur Terre, nous nous heurtons, l'exemple du lac de Vostok, je crois, illustre bien les problèmes, à des problèmes technologiques et de protection planétaire qui sont importants. Alors, une mission qui semble plus raisonnable, c'est d'envoyer un orbiteur qui pourrait faire une cartographie détaillée de Europe, qui permettrait de confirmer la présence de cet océan et éventuellement qui permettrait aussi de rechercher des traces d'émanations gazeuses qui pourraient être une indication d'activité biologique dans cet océan. Bien, j'en arrive au dernier aspect dans cette recherche de vie extraterrestre qui est quid d'au-delà du système solaire. Alors, il y a quelques années, il y a 10 ans, la réponse était SETI. On va rechercher une vie, on limite nos recherches à une vie intelligente, technologiquement avancée. Aujourd'hui, on peut faire, enfin, je ne dirais pas faire mieux, mais disons, on peut élargir fantastiquement notre domaine de recherche grâce à la capacité que nous avons, capacité technologique, de repérer des planètes extrasolaires, ce qu'on appelle des exoplanètes. Alors, c'est la date du 18 avril, parce que sur le site de Jean Schneider, qui est d'habitude remis à jour régulièrement, ça s'arrête au 18 avril pour l'instant. Donc, au 18 avril dernier, le nombre de planètes extrasolaires détectées s'élevait à 188. Et je vous rappelle qu'il y a 10 ans, on détectait la première. Donc, vous voyez qu'en 10 ans, le nombre a quand même augmenté colossalement, comprenant 152 systèmes planétaires, dont 19 systèmes avec plusieurs planètes. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces planètes, pour l'instant, sont uniquement des planètes géantes ou des grosses planètes. Ce ne sont pas des planètes du type de la Terre, des planètes telluriques. Mais il n'empêche, on devrait, dans les années qui viennent, être capable aussi de détecter des planètes telluriques. Si on est capable de détecter ces planètes et si on peut déterminer la composition de leur atmosphère, alors on a accès à de l'information sur une éventuelle activité biologique. Mais quels biomarqueurs rechercher ? Alors, il peut être des biomarqueurs tout simplement atmosphériques. Et parmi ces biomarqueurs, il y en a qui ont des signatures spectrales qui sont assez faciles à repérer. C'est le cas, par exemple, plus que l'oxygène, c'est le cas surtout de l'ozone, c'est le cas du méthane, avec des risques qui sont liés à ces recherches, des risques de faux positifs. Ce n'est pas forcément parce qu'on voit de l'ozone, ça veut dire qu'il y a la vie. Le cas de Mars, on voit de l'ozone dans l'atmosphère martienne, mais il y en a très peu. Alors, quelle est la limite à partir de laquelle on peut dire c'est une signature biologique ? Question sur laquelle on travaille actuellement. Il y a de l'ozone autour de l'Europe aussi, parce qu'il y a de l'oxygène qui, photochimiquement, donne de l'ozone. Même question, quelle est bien qu'Europe ait une atmosphère extrêmement ténue, quelle est la concentration minimum d'ozone à partir de laquelle ça peut être considéré comme une signature biologique. Il y a aussi des faux négatifs. Par exemple, la Terre, avant, il y a à peu près 2 milliards d'années, jusqu'à 2 milliards d'années, donc, eh bien, la Terre avait une atmosphère dans laquelle il n'y avait quasiment pas d'oxygène, donc il n'y avait quasiment pas d'ozone. Et donc, un extraterrestre en train d'observer notre planète il y a 2 milliards d'années, avec les techniques que nous voulons utiliser, n'aurait pas identifié la vie sur Terre alors qu'elle était présente à cette époque-là. Donc, là, il y a des études tout à fait qui vont crescendo actuellement, basées sur ces problèmes. Il y a aussi des études sur des planètes qu'on n'imaginait pas avant de découvrir un certain nombre de planètes extrasolaires qui ont des propriétés tout à fait extraordinaires. On a découvert des planètes de la taille de Jupiter qui sont beaucoup plus proches de leur Soleil que les Mercure de notre propre étoile, qui sont à 0,05 unités astronomiques seulement de leur étoile. De telles planètes doivent être très chaudes. Ce sont ce qu'on appelle maintenant des Jupiters chauds, 1500 degrés Kelvin sur la surface de leur enveloppe. Les chercheurs, il y a des chercheurs justement à Orsay qui travaillent sur ces aspects-là, quand ils modélisent ces planètes, ils envisagent la présence de planètes qui seraient couvertes totalement d'un océan d'eau liquide. C'est ce qu'on appelle les planètes océans. Ce sont des modèles et qui pourraient peut-être donner lieu à des observations dans 10, 20, 30 ans, 30 secondes. Grâce à une mission qui s'appelle Darwin et pour laquelle je ne donnerai pas de date de lancement. Bon, et je conclue sur ce transparent. qui résume un peu les différentes approches dans notre domaine. Donc, la vie sur Terre est apparue, d'après ce que nous pensons, d'une chimie subtile entre la matière carbonée et l'eau liquide, donnant naissance aux premières autoréplications, aux premières molécules autoréplicatives, au monde ARN, à la cellule primitive, à ce LUCA, donc qu'on ne connaît pas très bien. On étudie les plus anciennes traces de vie sur Terre, 3,5 milliards d'années, peut-être 3,8. On étudie l'histoire de la Terre primitive, mais on étudie aussi, pour mieux comprendre ce qui s'est passé sur Terre, la chimie du milieu interstellaire, les sources météoritiques qui ont conduit à la matière organique sur Terre et d'autres environnements où la vie a pu apparaître, comme Mars, comme Europe, d'autres environnements qui ont des analogies avec la Terre, comme Titan. Et on regarde même au-delà les planètes extrasolaires. Et c'est l'ensemble de ces données qu'il faut intégrer pour comprendre justement ce qui s'est passé sur Terre et inversement, pour essayer d'extrapoler ce qui s'est passé sur Terre à d'autres environnements. Et sur ce, j'ai dit que c'était le dernier. Le voilà. Je vous remercie pour votre attention.